Andrew, mais en pratique, l'étude qu'on a eue avec les jeunes ce vendredi sur les dons spirituels et qu'on est un corps et que si on voit un besoin, il faut y aller, on n'attend pas que le pasteur fasse tout. Et il a vu un besoin, il est allé. Donc, merci Andrew. On a eu un bon moment entre jeunes avec les crêpes. J'aimerais commencer ce message ce matin en lisant deux versets des Écritures dans l'épître de Pierre, sa première épître, chapitre 1, versets 8 et 9. Des versets qui me tiennent beaucoup à cœur parce qu'ils sont très profonds. 1 Pierre, chapitre 1, versets 8 et 9. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Celui qui écrit cela, c'est l'apôtre Pierre, qui lui avait vu Jésus. Il avait vécu plusieurs années en tant que disciple du Seigneur. Et lui, il pouvait dire, moi je crois au Seigneur parce que j'ai entendu ses paroles. Je l'ai vu vivre dans son intimité, j'ai vu à quel point il est saint, il est parfait, il est le Fils de Dieu, mais surtout, je l'ai vu sur cette croix, hein, donner sa vie pour nous. Je l'ai vu après sa résurrection. Lui, il avait de quoi croire, mais nous, hein, qui suivons l'apôtre Pierre, nous n'avons pas vu le Seigneur. Et quelque part, l'apôtre Pierre loue la foi de ces chrétiens en disant « Vous l'aimez, vous, sans l'avoir vu. » Ce qui est plus fort que d'aimer le Seigneur en l'ayant vu. Mais aux yeux du monde, on peut être pris un peu pour des fous. Aimer quelqu'un qu'on n'a jamais vu. Croire en quelqu'un qu'on ne peut pas voir. Baser sa vie présente et sa vie future, éternelle, sur quelqu'un qu'on n'a jamais vu. N'est-ce pas fou? Pour les rationalistes, les matérialistes, c'est une pure folie. Mais nous ne sommes pas sans éléments pour notre foi. Notre foi n'est pas complètement aveugle. D'abord, eh bien, nous avons le témoignage de la création. Le monde qui nous entoure, lorsqu'on peut sortir un peu de Paris, n'est-ce pas, et voir quelques vrais arbres, quelques vraies fleurs, quelques vrais insectes, et s'émerveiller devant la création, devant l'intelligence que Dieu a donnée aux animaux pour s'adapter parfaitement à leur milieu. Quand on voit l'agencement de toutes choses, lorsque vous analysez même un petit bout de forêt, vous découvrez que ce petit bout de forêt est en symbiose totale. Depuis le plus haut, la cime des arbres, jusqu'aux racines, tout est en symbiose entre les animaux, les insectes, les fleurs, les plantes, les herbes, les arbres. Tout est là ensemble. L'atmosphère, la pluie, le soleil, tout est combiné avec une sagesse parfaite. C'est la création de Dieu. C'est déjà un premier témoignage visuel. D'ailleurs, Paul dit aux Romains, il dit... Vous pouvez voir de vos yeux, hein, les splendeurs de Dieu. Le deuxième témoignage qu'on a, c'est la parole de Dieu, la Bible. C'est quand même un livre extraordinaire. Un livre très, très ancien, écrit par 45 écrivains différents, mais qui tous tendent vers le même point. Tous parlent du Messie, c'est-à-dire le Sauveur des hommes, promis par Dieu. Et ces 45 écrivains, en fait, ils sont inspirés par un seul auteur que l'on voit tout au long des pages, Dieu lui-même. Si nous devions écrire un témoignage sur un fait que l'on aurait vu dans la rue, là, je suis sûr qu'il y aurait plein de contradictions. Certains diraient, il était telle heure. Non, il n'était pas telle heure, il était telle heure. Et puis l'autre dirait, mais c'était un homme. Non, c'était une femme. Mais si, il avait une voiture bleue. Non, mais elle était rouge. Et là, la Bible raconte des choses qui se sont passées il y a des millénaires et des siècles. Et les quatre évangiles, par exemple, qui parlent de la vie de Jésus, ne se contredisent pas, mais vont dans la même direction. Ils racontent les mêmes faits, même si certains ont vu des choses que d'autres n'ont pas vues. Ils se complètent parfaitement. Il y a un miracle dans la Bible, hein, de l'inspiration. Et ça, on peut le voir tous les jours, on peut lire la Bible et dire... En plus, ce qui est extraordinaire avec la Bible, c'est qu'elle est vivante. Ce n'est pas un livre qu'on met dans sa bibliothèque et qu'on laisse pourrir, moisir tranquillement. C'est un livre qui vit, un livre qui nous parle. Quand on l'ouvre, il se passe quelque chose, surtout quand on est chrétien, quand on a le Saint-Esprit. Le Seigneur nous a laissé un troisième témoignage, c'est Jésus-Christ lui-même qui est venu en chair, montrer qui est Dieu, montrer que Dieu est un Dieu de grâce. La loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jésus-Christ est un personnage historique. Nous sommes en 2011, après Jésus-Christ. C'est-à-dire que le monde a été changé. Il y a le monde avant Jésus-Christ et le monde après Jésus-Christ. Et même si on ne croit pas en Jésus-Christ, il a changé et divisé l'humanité en deux quelque part. Nous avons ces témoignages, mais pour l'essentiel, nous aimons le Seigneur sans le voir. En fait, ce qui veut dire, c'est qu'on ne peut pas le voir avec nos yeux humains. C'est vrai. Et ceux qui ont des visions de Dieu doivent vraiment prêter attention à ne pas se laisser tromper. La Bible dit que Satan se déguise en ange de lumière. Il y a des personnes qui racontent, je dormais et je me suis réveillé et au pied de mon lit, il y avait Jésus dans un habit de lumière qui me souriait. Faites attention à ce genre de choses. Vous ne savez pas qui c'est exactement. C'est arrivé à quelqu'un, à une personne qui a été très troublée. La vision est revenue plusieurs fois et cette personne est allée voir un pasteur et le pasteur lui a dit, écoute, la prochaine fois que tu as cette vision, tu lui dis, es-tu le Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu ? Et on va voir ce qu'il te répond. Et donc la personne a attendu et au bout d'un certain nombre de jours, la vision est réapparue pendant la nuit au pied de son lit et il a pensé à cette phrase, « Es-tu le Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu ?» Et la vision est partie sans répondre. Attention à ne pas chercher justement des visions. Il y a aussi ceux qui cherchent les supports matériels de la foi, des statues, des objets, des images. C'est la mode des icônes. Qu'est-ce qu'a dit le Seigneur dans les 10 commandements ? Attention, ce n'est pas juste un verset comme ça dans la Bible. C'est dans les 10 commandements, dans le livre de l'Exode au chapitre 20. Tu ne feras pas d'image taillée de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, en bas sur la terre. Et tu ne te prosterneras pas devant elles. Le Seigneur savait que la tendance humaine, c'est de voir, de vouloir toucher. Rappelez-vous le peuple juif lorsqu'il est sorti d'Égypte miraculeusement. Dieu a ouvert la mer Rouge, ils ont vu des miracles que nul homme n'a vus. Hein. Et les voilà de l'autre côté, à l'abri. Moïse est appelé par Dieu en haut du mont Sinaï pour recevoir la loi. Et pendant qu'il est parti, le peuple se dit... Il faut faire quelque chose, il faut qu'on célèbre ce Dieu qui nous a délivrés. Oui, mais... qui est-il ? Où est-il ? Mais on sait qui c'est, c'est le veau. C'est le veau, on va faire un veau en or. Alors tout le monde donne ses bijoux en or, ils font de l'or et ils en fabriquent un veau et ils se mettent à se prosterner devant ce veau en disant « Tu nous as délivrés d'Égypte !» Le veau Apis, hein, le fameux veau des Égyptiens. On se dit, mais c'est pas possible, ils n'ont pas compris que Dieu est invisible, le vrai Dieu ne peut pas se toucher, se voir, se représenter, parce qu'il est infiniment grand, et Dieu ne peut pas mettre dans une boîte. Et les hommes ont repris ça, l'Église chrétienne, dans certaines particularités, a repris des statues, des images, et certaines personnes ne peuvent pas vivre sans leurs statues, sans leurs images, il y en a qui accrochent ça au rétroviseur, en disant « ça me protège des accidents », ça n'a jamais protégé personne. Ou ils ne peuvent pas prier sans avoir quelque chose à toucher ou à voir. Alors que la foi, dit Pierre, c'est d'aimer le Seigneur sans l'avoir vu. de croire en lui sans le voir encore. C'est vrai que ce n'est pas facile de croire en quelqu'un qu'on ne voit pas, de faire confiance à quelqu'un qu'on ne peut pas visualiser. Mais pourtant, le Seigneur nous a laissé des promesses justement dans la parole de Dieu. Pour faire confiance à quelqu'un, il faut l'avoir vu à l'œuvre. Et nous avons vu Dieu à l'œuvre. D'abord, on a vu Dieu à l'œuvre dans le passé, mais on peut le voir aussi dans notre vie à nous. On peut voir comment Dieu répond aux prières, comment les promesses de Dieu dans la Bible sont véridiques, parce que quand on les prie, elles s'accomplissent. Ça nous montre que Dieu est vivant, qu'on peut lui faire confiance. Et puis, la Bible parle de la foi qui a des yeux. Oui, la foi a des yeux, mais pas les yeux humains. En Hébreux chapitre 11, il est écrit ceci: « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » La foi est une ferme assurance. La foi, c'est pas dire « Oh, j'espère que tout ça, c'est vrai. J'espère que Dieu existe vraiment. J'espère que je serai sauvé. » Ça, c'est pas la foi. Ça, c'est l'espérance humaine. On a tous un peu d'espérance, on essaie de se remonter le moral. La foi, c'est une ferme assurance. Et elle est basée sur quoi, cette ferme assurance? Sur une ferme promesse de Dieu. Dieu a tant aimé le monde, dit la Bible, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, je suis quiconque là. Je crois en Jésus-Christ. Et donc, par cette promesse de Jean 3,16, tu me dis, j'ai la vie éternelle, parce que j'ai cru au Fils. Pas parce que je suis meilleur qu'un autre, simplement parce que j'ai reçu ce salut. Ça, c'est la foi ferme. Est-ce que vous avez cette foi ferme? Ou est-ce que vous avez une foi qui doute, une foi défaillante, une foi... Vous dites, j'aimerais bien avoir cette fermeté moi aussi, cette assurance que vous avez. Comment l'avez-vous obtenue? Est-ce que vous êtes un meilleur chrétien? Est-ce que vous êtes vraiment quelqu'un, vous ne péchez jamais? Alors vous pouvez dire, ben moi je ne pêche jamais, donc je serai au ciel, c'est sûr. Rassurez-vous, ce n'est pas le cas. Si nous allons au ciel, ce n'est pas parce qu'on ne pêche jamais. Si nous allons au ciel, c'est parce que Christ a payé pour nos fautes. Il a payé notre dette envers Dieu et il nous a acquis la vie éternelle par son sang précieux et que nous avons accepté ce cadeau. C'est pour ça qu'on peut dire « je vais au ciel ». C'est basé sur la parole de Dieu, sur les promesses de Dieu. Oui, mais comment savez-vous que les promesses de Dieu sont vraies? Elles ont été écrites il y a si longtemps. Elles sont dans ce livre, la Bible. Et oui, et c'est ça la foi, le côté fou de la foi. Je n'ai pas une photo du paradis. Je n'ai pas reçu un ticket qui me dit « Monsieur Bozzi, vous avez votre place réservée personnellement, signé Dieu. » Pourtant, je reçois dans mes courriels une quantité incroyable de messages en disant « Monsieur Bozzi, vous avez gagné par courrier postal également, vous êtes sélectionné, vous êtes le millième ceci, le millième cela, vous avez gagné. » Tout ça, c'est poubelle. Mais ce que Dieu dit dans la Bible, je sais que je l'ai. Jean, chapitre 14, Jésus dit, je vais m'en aller. Et que va-t-il faire quand il s'en va? Voilà, verset 2. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Non seulement le Seigneur nous dit qu'il nous prépare une place au ciel, mais il nous dit qu'il va revenir nous chercher. Parce qu'on pourrait dire, oui, tu nous prépares une place, mais comment on va y aller, nous? Je reviendrai vous chercher. C'est le berger, là, qui parle à ses brebis. Hein. Quand on meurt, quand un chrétien meurt, le Seigneur vient le chercher. Quand je lisais Tintin, il y avait un moment, le seul Tintin où quelqu'un meurt vraiment de façon spectaculaire, et c'était un méchant. Et on voit les démons qui le prennent, alors avec des cornes et tout ça, et qui, avec des fourches, et qui emmènent le mort là au ciel. Et puis on imagine l'autre côté, hein, des anges qui emmènent celui qui est sauvé. Et je sais que quand on meurt, le Seigneur nous prend avec lui. Il ne nous lâche pas d'une semelle. On lui appartient. Il dit, je vous ai scellé par le Saint-Esprit jusqu'au jour de la rédemption, c'est-à-dire jusqu'au jour de la résurrection, du salut final. Vous êtes scellé, vous m'appartenez, vous êtes à moi, rien ne pourra vous séparer de Dieu, rien ne pourra nous voler à Dieu, même pas Satan et toutes ses sbires. Nous avons la vie éternelle parce que Dieu nous l'a donnée. Si vous n'avez pas cette assurance, il ne tient qu'à vous de venir au Seigneur, de dire « Seigneur, je suis pécheur, je suis coupable, mais j'ai entendu ta promesse ce matin. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, n'aille pas en enfer, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, je suis ce quiconque, je crois en toi. Sauve-moi par ta grâce. » C'est ça la foi qui voit, la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous voyons mieux avec la foi qu'avec nos propres yeux. D'ailleurs, comment feraient les aveugles ? Les aveugles ont la foi aussi. Ils peuvent croire au Seigneur. C'est merveilleux de voir les choses spirituelles. Il y a un monde tout autour de nous qu'on ne voit pas et qui existe, avec des anges, avec des démons. Il y a un combat spirituel qui décide pas mal de choses, en fait, sur la terre. La guerre entre les hommes, la perdition, le péché, tout ça est influencé par des forces spirituelles, les esprits méchants dans les lieux célestes. Israël est lui-même le centre d'un combat terrible entre les forces démoniaques et l'ange Michel, l'archange Michel, Michael. Mais le Seigneur veille sur tout cela. Et nous n'avons pas besoin de voir de nos yeux, nous savons que ces choses existent. Ce que Dieu nous demande de faire, c'est de l'aimer sans l'avoir vu, de nous réjouir d'une joie ineffable et glorieuse, parce que nous obtiendrons le salut pour prix de notre foi. J'aime ce verset. On ne peut rien payer pour acheter son salut. Le salut est gratuit, ça ne s'achète pas. Il n'y a pas d'œuvre qu'on puisse faire pour être sauvé. Même des œuvres religieuses, vous pouvez être baptisé, confirmé, marié à l'église, tout ça, ça ne vous sauve pas. Vous pouvez faire des pèlerinages, des prières, lire des livres, prier pendant des nuits entières, ça ne vous sauvera pas. Le salut est gratuit, mais il se paye avec l'argent du ciel, la foi. Vous obtiendrez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Cette foi, justement, qui ne voit pas. Cette foi qui ne voit pas avec les yeux, mais qui voit intérieurement, qui voit ce Christ crucifié. Le Seigneur nous a laissé le pain et le jus de raisin qui sont des éléments visibles, justement, pour nous rappeler sa mort. Mais on peut imaginer notre Seigneur se faire clouer sur la croix. Et quand il s'est fait clouer, c'est volontairement. Il a donné sa vie, il a fait par amour, il a supporté ses clous, il a supporté la haine, la moquerie, parce qu'on s'est moqué abondamment de lui quand il était crucifié. Si tu es fils de Dieu, descends de cette croix. Vous savez, quand vous êtes orgueilleux, ce genre de défi, ça vous met en rogne. Ah oui, tu vas voir, je vais descendre, ça va te fermer la bouche. Sauf que le Seigneur n'a pas d'orgueil. Le Seigneur n'est pas égotiste comme nous. Le Seigneur devait être cloué sur cette croix par amour pour nous. Et il s'est laissé clouer, insulté, craché dessus. On lui a craché dessus. On l'a fouetté, on l'a giflé. Et il a laissé faire pour nous sauver. C'était le seul moyen de nous sauver. Là, la foi peut voir ces choses. Elle peut lire aussi dans l'Évangile tout ce qui est dit à ce sujet. Et elle peut croire. À quel point est-ce que nous aimons le Seigneur sans le voir ? Parfois, on dit au Seigneur, mais je n'ai pas eu de réponse à ma prière, alors je suis un peu fâché avec toi. Oui, Il y a des gens qui disent, moi, Dieu, on est en froid, parce que Dieu ne m'a pas béni comme j'attendais. Ça, ce n'est pas la foi qui sauve. Ce n'est pas la foi qui aime Dieu sans l'avoir vu. Nous sommes appelés parfois à vivre des circonstances difficiles, à souffrir pour le Seigneur, à passer des moments terribles même, tout en étant croyants. Dieu n'a jamais promis que la vie sur terre serait rose. Mais il a dit que dans tous ces moments, il serait avec nous. Et par la foi, on peut le savoir. Il y a des moments, et je pense à Jérémie dans les Lamentations, il dit « Quand je prie, je fais face à un mur. Je prie et j'ai l'impression que ça ne dépasse pas les nuages. C'est arrêté. J'ai l'impression que je suis tout seul dans ma détresse. » Jérémie était un prophète de Dieu qui vivait au milieu d'un peuple complètement incrédule et rebelle à Dieu. Et il avait beau prêcher, parler, personne ne voulait l'entendre. Non seulement personne ne voulait l'entendre, mais en plus, on l'a mis en prison, hein, on l'a mis dehors. Et Jérémie, dans sa détresse, sa solitude, il s'est dit, au moins j'ai le Seigneur. Et il a commencé à prier et il avait l'impression que même le Seigneur n'était plus là. Mais cette impression est partie avec la foi. Quand il a commencé à se rappeler Lamentations, hein, le livre des Lamentations, non, la grâce de Dieu n'est pas épuisée. Elle se renouvelle chaque matin. Combien c'est précieux ces paroles, parce que Jérémie, il a vécu des choses très très difficiles. Et si lui, il peut dire non, la grâce de Dieu n'est pas épuisée, alors nous aussi, on peut le croire. Je ne sais pas où vous en êtes, mais si vous êtes dans une situation très pénible, très difficile, vous avez l'impression d'être seul, que personne ne peut vraiment comprendre votre situation. Parfois, c'est le cas. Hein. Il faut être dedans pour le comprendre, mais si on n'est pas dedans, on peut toujours compatir, mais on ne peut pas faire beaucoup plus. Sachez que le Seigneur est là. Et même si quand vous priez, vous avez l'impression que tout est fermé, tout n'est pas fermé. C'est juste une impression. Mais votre foi, elle va voir au-delà des murs, au-delà des nuages, elle va voir le Seigneur. Rappelez-vous Job, qui n'en pouvait plus de son épreuve, et qui disait « Seigneur, prends-moi la vie, je n'en peux plus. Pourquoi tu as... Tous mes enfants sont morts, mes animaux sont morts, mes maisons sont détruites, j'ai plus rien, ma peau est en train de se détruire, il souffrait terriblement. » Et il crie vers Dieu, et finalement Dieu se révèle à lui. Mais au bout d'un certain temps, et d'un temps certain. Et c'est ça, c'est là que la foi entre en action, dans ce temps d'attente. La foi peut être un peu comme un muscle, vous savez, au sens où la foi s'exerce. Si on n'exerce jamais sa foi, elle va être toute rabougrie. Mais plus on exerce la foi, c'est-à-dire le fait de faire confiance à Dieu sans le voir, plus la foi devient forte. C'est pour ça que les chrétiens les plus éprouvés sont ceux qui souvent ont le plus de foi, parce que leur foi a été étirée, hein, jusqu'à presque la rupture, mais ça n'a pas rompu. Le Seigneur nous appelle à avoir cette foi qui se réjouit à l'avance du salut, cette foi qui aime le Seigneur et qui lui fait confiance. Je terminerai ce matin avec l'amour pour Christ. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Le Seigneur n'est pas un bon génie qui sort de la lampe quand on en a besoin. Le Seigneur n'est pas un Dieu lointain qui regarde notre vie de très loin en disant ben, « débrouille-toi ». Le Seigneur nous aime. Il l'a prouvé en donnant sa vie pour nous. Et il attend qu'en retour aussi on l'aime. Qu'est-ce que ça veut dire aimer Dieu? Ce n'est pas juste avoir un sentiment pour lui. Ce n'est pas juste dire « Oh Seigneur, qu'est-ce que je t'aime ?» Bon, c'est bien, mais ça ne fait pas l'amour. L'amour, c'est être prêt à suivre le Seigneur. À obéir quand il nous demande quelque chose qui ne nous plaît pas. Ou qu'on ne comprend pas. À lui faire confiance dans les situations les plus ténébreuses. L'amour va jusqu'à la mort. L'amour est entier. Quand vous aimez quelqu'un absolument, même si la personne a l'air de vous trahir ou de ne plus être là, vous continuez à l'aimer. Il y a eu des cas comme ça extraordinaires de personnes qui aimaient quelqu'un et cette personne qu'ils aimaient a été accusée du pire des crimes. Et la personne a dit « Je l'aime et je ne peux pas croire que cette personne ait fait ça. » Et finalement, elle a découvert que ce n'était pas lui qui l'avait fait. On a découvert que cette personne était innocente. Et cet amour était au-delà en disant « Non, je ne peux pas croire qu'il fasse ça. Je ne peux pas croire que Dieu soit injuste. Je ne peux pas croire que Dieu se plaise dans nos malheurs. Je ne peux pas croire que Dieu frappe des innocents. Je sais que Dieu est amour, que Dieu est un Dieu de grâce. » Il y a aussi l'histoire de cette femme. Son mari était fermier et il est tombé de la grange, du premier étage de la grange. Il s'est fracassé le crâne et il est tombé dans le coma. Et sa femme, ils avaient peut-être 7 ou 8 ans de mariage, sa femme est venue le voir à l'hôpital tous les jours, le premier mois, tous les jours. Le deuxième mois, tous les jours. Le troisième mois, tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Pendant 3 ans. 3 ans. Et les médecins ont dit, vous savez, madame, Marie est dans le coma, on ne sait pas s'il va se réveiller un jour. Hein. C'est pas grave. Et chaque fois qu'il y avait une date qu'ils aimaient bien, elle faisait un petit cadeau, un petit bouquet, une petite chose, un petit truc spécial. Et c'est autour de leur anniversaire de mariage qu'elle est venue le voir et d'un seul coup, il a repris ses signes vitaux. D'un seul coup, il a ouvert les yeux. Et je peux vous dire le choc de cette femme et du personnel autour quand cet homme a ouvert les yeux après plusieurs années de coma. Et les médecins ont dit à cette femme, « Madame, vous avez réveillé votre mari par votre amour. » Vous avez tellement persévéré à l'aimer, il ne pouvait que se réveiller. Le Seigneur nous a aimés d'un amour comme ça, d'un amour persévérant. Il aime des pécheurs impies comme nous. J'ai du mal à comprendre comment il peut faire, mais il persévère avec nous. Mais nous, est-ce que nous l'aimons aussi? Job n'a pas perdu sa foi dans son épreuve. Il a été très découragé, très déprimé. Il voulait mourir. On ne peut pas dire que c'est soit la joie quand même. Hein? Mais dans tout cela, il n'a jamais perdu confiance en Dieu. D'ailleurs, sa femme lui a reproché. Elle lui dit, mais regarde ce que Dieu t'a fait et toi, tu continues à dire merci Seigneur. Et Dieu veut qu'on soit comme Job, qu'on l'aime. Malgré tout, parce que Dieu est digne d'être aimé. Il est tellement merveilleux, notre Seigneur. Il a tellement donné pour nous que la moindre des choses, c'est de l'aimer en retour. De l'aimer sans le voir, sans l'avoir vu. Même si tous les jours ne sont pas bénis, le Seigneur est là et c'est déjà une bénédiction que le Seigneur est là tous les jours avec nous. Soyons des gens reconnaissants envers Dieu. La reconnaissance, ça aide beaucoup dans la santé. C'est ce que dit les proverbes. Quand on est reconnaissant, on est en meilleure santé physique. Pourquoi? Mais parce qu'au lieu de se plaindre et de se déprimer, on remercie le Seigneur. Et ça fortifie nos défenses naturelles. Saviez-vous? Ça fortifie nos défenses naturelles. Soyons des chrétiens reconnaissants. Et si jamais on vous dit, mais comment peux-tu aimer quelqu'un que tu ne vois pas? Soyez prêts à répondre. Qu'est-ce que vous répondriez? Comment peux-tu aimer quelqu'un que tu ne vois pas? Que répondriez-vous? Je vous laisse avec cette question. Et j'espère qu'on aura tous une réponse à donner. S'il y a quelqu'un parmi nous qui n'a pas cette assurance du salut, j'aimerais parler avec vous, que vous puissiez la voir aujourd'hui, parce que le Seigneur vous l'offre. aujourd'hui même, son pardon et la vie éternelle. On va terminer par un cantique. Viens au